a déniché son ready sting dans une très très grosse chaîne d'épicerie. On a eu de la chance au début de l'été chez Save on Food, donc c'est 160 magasins en claquant des doigts, où est-ce qu'on est disponible un peu partout en Colombie-Britannique et en Alberta.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 157e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, j'en profite aujourd'hui pour vous faire une toute nouvelle annonce. Le 3 mai dernier, on a officiellement lancé notre troisième balado hebdomadaire intitulé « Commerce Élite ». Après hypercroissance et social selling, on a décidé de lancer un tout nouveau podcast qui sortira à chaque mardi parlant des tendances à suivre dans le commerce électronique. Les entretiens tactiques et stratégiques seront également rendez-vous. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez le transformer en commerce élite, allez jeter un petit coup d'œil à notre tout nouveau balado ou encore transférez le podcast à votre chef du département marketing. Je me fais un petit plaisir personnel aujourd'hui en ayant sur le podcast le président et fondateur de l'entreprise Matéina, Nicolas Beaupré. En étant personnellement un grand fan de Maté, j'ai découvert l'organisation de Nicolas. Il y a environ 2 ans maintenant et force est de constater qu'il ne passe pas une semaine sans que j'ai leurs produits dans mon frigidaire. Mais bon, en plus d'avoir d'excellents produits, Matéina possède aussi une très belle croissance. En ayant lancé l'organisation avec seulement une présence en ligne, ils ont rapidement évolué à travers les années afin d'obtenir une distribution autant avec des points de vente que via leur site web. L'entreprise qui a fracassé les 2 millions de chiffre d'affaires l'année dernière s'apprête à s'étendre un peu partout au Canada dans les prochains mois et c'est d'ailleurs ce qu'on a abordé pendant l'entretien. Sans plus attendre, ma discussion avec Nicolas Beaupré. Nicolas Beaupré, tu es le président et fondateur de l'entreprise Matéina, un fabricant et distributeur de maté qui vend autant en ligne qu'en magasin. L'entreprise qui fut lancée en 2016 est derrière la vague d'enthousiasme qu'on peut voir derrière la consommation de maté autant au Québec que partout dans le monde. Nicolas Beaupré, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de me recevoir. Très content d'être là.
Et Nicolas, avant de parler de ton histoire et celle par extension de Matéina, peux-tu expliquer spécifiquement à notre audience comment votre entreprise opère, si vous fabriquez vos produits ici ou ailleurs, comment tout ça se déroule?
En fait, Matéina, notre modèle d'affaires jusqu'à maintenant, c'est vraiment, on est une marque, si on veut, de yerba maté. Donc, on n'est pas une usine, on n'est pas un manufacturier. On est vraiment un brand, si on veut. Donc, notre focus est vraiment mis sur les ventes, le marketing, la distribution. Donc, je dis pas qu'on est un asset-light company. Tu sais, on n'a pas beaucoup d'actifs, si on veut. On n'a pas d'usine, on n'a pas de ligne d'encanetage. Donc, c'est vraiment en sous-traitance que ça se fait pour tous nos produits. Donc, nous, on crée les recettes, on crée le branding, on crée vraiment tout de A à Z. On fait l'approvisionnement. Mais bon, une fois par mois environ, on envoie les matières premières, l'emballage, vraiment tout à un sous-traitant. Il va assembler le produit, puis il nous retourne le produit fini à notre entrepôt. Puis là, ben, on s'occupe de faire la distribution. Il y a beaucoup d'avantages et de désavantages à ce modèle d'affaires-là. Mais pour l'instant, je te dirais que c'est comme ça qu'on est décollé. Puis, je te dirais que la grosse majorité des breuvages, comme les dans le même style de Matéina, qui sont pas trop complexes nécessairement à faire, sont faits de cette manière-là. Donc, ça nous laisse énormément de temps. Ça nous laisse vraiment plus de temps pour focusser sur le plus important, qui est la distribution, les ventes, l'image de marque. Je vois souvent ça comme deux business différents, moi, le manufacturing puis les ventes, la distribution. Donc, c'est comme ça qu'on est décollé. Je dis pas que ça va être ça pour toujours. À un certain point, peut-être que ça va valoir la peine. Mais pour l'instant, l'usine et tous les défis que ça implique, spécialement en ce moment avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Là, donc, on focus sur qu'est-ce qu'on fait de bien.
Je pense que c'est un bon point de l'amener à l'attention de l'audience aujourd'hui parce qu'effectivement, on peut penser des fois que la majeure partie des produits alimentaires, des breuvages, dans un point de vue consommateur, que tout est fait de A à Z au niveau manufacture par la marque, mais plus souvent qu'autrement, ce n'est pas le cas. Et surtout, j'imagine, à t'entendre comme une entreprise qui a quelques années d'existence, ça fait 6 ans bientôt, Matéina, ben c'est ça, ça vous aurait peut-être freiné dans votre croissance d'avoir à vous soucier, comme tu l'as si bien dit, d'une autre entreprise, littéralement, qui est l'entreprise qui va faire la manufacture.
Exactement, exactement. Puis moi, on le voit un peu alentour de nous. Tu sais, c'est certain, c'est impossible pour une startup de pouvoir exceller dans tous les domaines. C'est certain que si on prend sous sa charge tout le volet production, on pourra pas avoir une force de vente qui est aussi rapide, aussi forte, puis une croissance aussi rapide là, qu'on le voudrait, à moins qu'on commence avec un funding de 2,5 millions au jour 1, puis qu'on soit capable de se bâtir une équipe, puis ça c'est une autre histoire, mais pour une startup à la Mateina, c'est ça, on a décidé de passer de cette manière-là.
Fantastique et bon. On va retourner un petit peu à la genèse, à la création de l'entreprise. Mais avant toute chose, je veux le mentionner à notre audience aujourd'hui. Je me suis fait un petit plaisir en invitant Nicolas parce que je suis un fan fini de leurs produits. J'ai commencé à consommer du maté il y a quelques années de ça. Je suis tombé par hasard sur leurs produits. Depuis, j'en bois quand même assez souvent et j'ai eu la chance récemment d'être en contact avec une de vos collègues à l'interne qui est intéressée à avoir l'équipe de Maténus sur le podcast. Donc, je tiens à le mentionner aussi pour l'audience aujourd'hui. Je suis un avocat de leurs produits et je recommande les produits de Maténus. Maintenant, Nicolas, j'aimerais, comme je l'ai dit, revenir un petit peu à la genèse de l'organisation et de ce que j'ai pu comprendre. Faire du maté, là, c'était loin d'être ta première idée de carrière au départ. J'ai pu comprendre que tu étais dans la catégorie d'affaires, tu voulais être un arpenteur ou tu étais même un arpenteur plutôt. Est-ce que malgré tout, malgré le fait que tu sois arpenteur, déjà plus jeune ou même à ce moment-là, c'était clair là qu'ultimement, tu allais être à ton compte?
Pas du tout. Puis en fait, c'est même venu à mon esprit, puis ça s'est un peu installé lorsque j'étais déjà impliqué dans le projet. Je pense que je fais partie de la catégorie des gens qui finissent le secondaire, qui arrivent au cégep, puis qui piquent un peu une carrière ou un programme, si on veut, les yeux fermés, parce qu'on sait pas trop où s'aligner. Puis moi, de mon côté, ben je viens d'une famille d'arpenteurs. Tout le monde dans ma famille fait ça. Fait que j'ai un peu pris le pattern familial sans me poser de questions, même si... Sincèrement, je peux le dire aujourd'hui, c'est pas le travail, si on veut, d'arpenteur qui est beaucoup aujourd'hui dans la géomatique du calcul, beaucoup d'ordinateurs. C'est pas nécessairement quelque chose qui me passionne. Je suis vraiment j'ai découvert que j'avais le profil parfait pour régler des problèmes jour après jour, puis un people person, puis les ventes, puis bon. Être capable de gérer plein de choses. Mais bref, au départ, c'est ça, j'avais pas du tout. Je me suis lancé un peu dans cette carrière-là, puis aux études, puis un peu de travail en même temps. Puis vraiment aux études, qu'est-ce qui était un peu l'élément déclencheur? Ben, je faisais des cours de langue, puis j'ai vraiment apprécié, si on veut, mes cours d'espagnol. Puis c'est vraiment, sincèrement, le cours qui me passionnait le plus à ce moment-là. Je trouve que c'est un skill qui est tellement utile, qui est tellement tangible, si on veut, que tu peux utiliser partout. Puis bon, j'ai décidé de pousser de ce côté-là. Je me suis dit, hey, mais si je parlerais trois langues, il me semble que ça serait une bonne base à avoir. Ça serait une bonne fierté. Fait qu'en 2016, je me suis dit, bon, je fais un gros trip pendant l'été. Je vais trouver une job en Amérique du Sud. Puis je vais aller faire une grosse immersion de plusieurs mois pour apprendre l'espagnol puis revenir ici trilingue. Fait que j'ai envoyé mon CV à tous les centres de ski en Amérique du Sud, fait qu'en Argentine puis au Chili. Puis en fait, bon, c'est les saisons inversées. Donc au mois de juin, exact, là-bas, c'est la saison hivernale qui vient de commencer. Donc ça a fonctionné. J'ai trouvé une job sur un petit centre de ski au sud du Chili. Puis je suis parti là-bas pour un premier trip de 4 mois. Puis c'est ça. C'est là que j'ai eu ma première expérience avec le maté, vraiment appris à propos de cette culture-là, vu aussi l'effet super positif sur le niveau d'énergie et tout. Puis en fait, j'étais vraiment surpris de jamais en avoir entendu parler. Tu sais, on a quand même accès à un grand éventail de produits en Amérique du Nord. Puis bon, le maté, c'était totalement inconnu pour moi. Fait que j'ai intégré ça à ma routine. Puis bon, en revenant au Québec quelques mois plus tard, fier matéro qui consomme du maté à tous les jours, j'ai recommencé à travailler dans le milieu de l'arpentage. Puis vraiment... Ça m'a permis de voir les choses différemment. Je suis quelqu'un, puis je commence à réaliser que lorsque, puis je le recommande à tout le monde, lorsque tu voyages assez loin et assez longtemps de ton cocon, de où est-ce que tu vis normalement, moi dans mon cas, ça me permet de voir les choses d'une perspective différente. Tu sors un peu de tes pantoufles, puis t'es capable de regarder, bon, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je fais au day-to-day, est-ce que j'aime ça vraiment, qu'est-ce qui me passionne pour vrai. Puis moi, c'est vraiment partir autant longtemps, ça a vraiment eu cet effet-là. Tu sais, je suis revenu au Québec avec plus d'énergie, plus conscient, si on veut, de mes décisions, puis de qu'est-ce que je faisais au day-to-day. Puis bref, sur un sideline, je me suis mis à travailler sur un commerce en ligne qui est vraiment le stade numéro un du Matéina aujourd'hui, qui s'appelait Maté Boutique à la base. Donc vraiment, je me suis dit, bon, je vais me mettre à gosser sur une boutique Shopify, vraiment à temps perdu. Puis c'est à ce moment-là que une chose en a amené une autre. Puis vraiment, j'ai pris plaisir à faire ça. J'ai pris plaisir à comme figure out toutes les étapes une après l'autre. OK, bon, OK, là, je suis rendu avec ça. OK, c'est cool, ça marche bien, c'est vraiment nice. OK, c'est quoi le prochain step? Puis ça s'est vraiment fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années même, solo dans un bureau, puis OK, je vais apprendre à faire un logo sur Illustrator. OK, on va faire un premier. Fait que j'ai vraiment tout appris par moi-même, étape par étape, puis vraiment trouver les solutions à chaque nouveau challenge qui venait à moi. Puis c'est vraiment, comme je te dis, après 6 à 8 mois que je me suis dit, hey, je suis quand même bon pour régler des problèmes, je suis quand même bon pour toucher à tout. C'est ça qui me challenge, de faire complètement une chose différente, tu sais, à l'opposé, jour après jour. Fait que j'ai comme un peu découvert, j'ai fait, tu sais, ça, être un entrepreneur, c'est ça, c'est partir d'absolument rien du tout, là. Puis de d'avoir une idée, puis de rendre ça possible. Puis c'est carrément ça que j'ai fait, là. On a eu vraiment un slow start avec Matéina. C'est vraiment fin 2016 que je me suis mis à travailler sur le projet. Mais c'est vraiment en 2018, fin 2018, qu'on s'est incorporé, que c'est vraiment devenu, ça a passé d'un sideline project à une vraie business, si on veut, qui a une distribution et tout. Parce que au départ, c'est ça, on n'est pas, j'ai pas fait, si on veut, le pattern classique, tu sais, d'aller chercher une agence pour faire un logo, une autre agence pour faire un site web, puis OK, j'ai besoin d'engager un lab pour développer les produits. C'est vraiment, c'est fait de A à Z dans le sous-sol de chez ma mère, puis sur plusieurs mois. Notre premier packaging, si on veut, je pense que ça m'a pris juste ça 4 mois à le designer en écoutant des tutoriels YouTube, puis en essayant de mettre ça sur pied, puis en posant des questions vraiment à tout le monde. Je pense que c'est une qualité, c'est un skill à avoir en tant qu'entrepreneur, être capable d'aller cogner absolument tous les portes, puis de poser les questions. Puis dans la grosse majorité du temps, mais les gens sont toujours super contents de t'aider puis de te donner les conseils. Mais c'est ça, faut que tu le fasses, faut que tu aies de la persistance. Puis c'est pas facile, ça se présente pas, l'information se présente pas à toi sur un beau plan de match précis. T'sais, même quand on est arrivé au moment de développer plus tard dans l'histoire, au moment de développer nos pré-avoirs, ça, j'en parle souvent, c'est un autre processus qui a pris pratiquement un an. Il n'y a absolument personne qui te dit comment faire ça. Tu dois l'apprendre toi par toi-même. Tu dois trouver, tu sais, il y a un gros système en arrière de ça, de comment tu fais ça. C'est où que tu achètes ça, des canettes? C'est comment que ça se remplit? Comment tu vas chercher une durée de vie? Est-ce que ton produit doit être sur tablette ou réfrigéré? La quantité de caféine dans notre cas? Est-ce que ça prend des permis? C'est comment faire une recette? Bon, faire une recette chez soi avec 1 litre, puis de la scaler à 5000 litres pour une production industrielle, c'est un autre gap. C'est plein de questions que tu n'as absolument aucune réponse au départ. Puis c'est en allant chercher des petits morceaux d'informations par-ci par-là, en faisant l'innocent des fois, puis en appelant d'autres compagnies, tu réussis à aller chercher l'info, puis une fois que tu l'as, ben tu. C'est un acquis. Je dis souvent aux gens, si demain matin tu me demandes de repartir une compagnie de breuvage, ça me prendra pas un an.
Tu connais le chemin maintenant. Mais moi, il y a un truc qui me fascine dans tout ça. Donc, je peux comprendre, et c'est peut-être un peu le marketeur en moi qui se dit, bon, OK, je peux comprendre, il peut faire son logo seul, il peut faire son site web, ça, c'est tout. Mais là, quand on arrive au volet des recettes, au volet des différents produits, Est-ce que c'était clair un petit peu, toi, de comment tu voulais bâtir ça? Est-ce que tu as travaillé avec des collaborateurs pour bâtir le produit, pour bâtir ces dites recettes?
En fait, comment ça s'est passé? C'est comme tu as pu voir, Matéina, on a une catégorie, si on veut, complète de produits à base d'herbes matées. Donc, à la base, on a commencé avec les produits en feuilles, en fait, à infuser, vraiment le maté classique, comme il est consommé en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment comme ça, on avait cette gamme-là de produits au départ, puis on a commencé la distribution dans les épiceries naturelles, on a continué en ligne. Puis en été, clairement, on faisait déjà des dégustations, des événements sportifs par-ci par-là. Puis en été, on préparait pas du maté chaud à faire déguster, bien sûr. On s'est mis à faire des recettes de maté froid. Puis bon, j'ai laissé aller ma créativité. Bon, essayer de faire du cold brew avec du maté. Bon, là, j'ajoute un peu de sirop d'érable, un peu de jus de citron. Fait que j'ai comme commencé à master les recettes de maté glacé. Puis on s'est rendu compte dans les événements que les gens appréciaient vraiment cette version-là. Ils étaient là, wow, c'est excellent. Tu sais, comment je peux reproduire ça exactement chez nous? Fait que ça, ben c'est sûr que ça allait allumer la petite lumière de bon, faut faire un prêt à boire. Ça, c'est non discutable. Puis vraiment, j'avais déjà, si on veut, ces recettes-là, j'avais déjà des bases de recettes. Comme je te dis, sur plusieurs mois, bon, ben, j'ai fait des déclinaisons différentes pour sortir des saveurs. J'ai un peu compris comment que les compagnies qui font des canettes, qui font des breuvages, en regardant les listes d'ingrédients, qu'est-ce qu'ils utilisaient dans ces produits-là, parce que bien sûr, c'est vraiment cool une recette maison, tu sais, maté, sirop d'érable, jus de citron. La réalité, c'est qu'en canette, tu peux pas le faire exactement de cette manière-là. Tu sais, il y a d'autres ingrédients qu'il faut ajouter la plupart du temps. Donc, c'est vraiment en regardant ça. Puis c'est là qu'elle a été la période la plus longue, je pense, de recherche et développement de mon côté. Mais je me suis rendu le plus loin possible, si on veut, avec mes recettes maison, faites dans un pichet dans la cuisine. Puis quand on s'est rendu, si on veut, à l'étape de, bon, là, il faut faire une production. On a en fait engagé un laboratoire à Saint-Hyacinthe, un laboratoire que tu peux carrément engager, puis tu peux leur dire, tu sais, donne-moi un client en main, moi je veux tel produit, puis développe-le pour moi. Moi, dans mon cas, j'ai dit, hey, moi je suis vraiment impliqué dans le projet, j'aimerais ça venir, si on veut, peaufiner mes recettes, puis rendre ma recette scalable avec vous. Fait que je suis comme un peu tombé en stage à ce moment-là. À chaque semaine, pendant 5 mois, 2 jours par semaine, j'allais là-bas dans un laboratoire avec une personne qui fait ça, là, qui fait ça comme métier. Puis c'est ça, elle m'a vraiment enseigné, OK, bon, on fait tout ça en pourcentage, mais on m'a enseigné un peu les règles de l'art là, pour faire des productions plus massives. Donc c'est vraiment là qu'on a fini avec notre produit, si on veut, qu'on a encore aujourd'hui. Puis une fois, ben avec l'apprentissage que j'ai eu dans ce laboratoire-là, ben j'ai été en mesure de développer des nouvelles recettes par après, seulement par moi-même, sans aller à nouveau là, à ce laboratoire-là. On avait la base, puis si on veut, les templates, puis tous les outils là, pour faire nos calculs, puis bon, calculer notre taux de sucre, la caféine, l'acidité, le pH, bon, tout ça, c'est tout des trucs qu'on a. C'est clair que pour une compagnie, bon, qui est rendue un chiffre d'affaires de 5 millions, j'ose espérer que ce sera plus moi le CEO et développeur de produits à la fois. Ça serait cool d'avoir quelqu'un qui s'occupe du R&D à ce moment-là. Mais non, de mon côté, c'est vraiment, j'avais une idée bien précise de produits en tête. C'est ça, ça a peut-être encore une fois été plus long que prévu.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, je vous pose une question. Êtes-vous à la recherche des dernières tendances pour votre commerce en ligne? Êtes-vous à la recherche des ressources pour votre chef du département marketing afin de l'aider dans son travail? Si c'est le cas, sachez qu'on croit avoir la bonne réponse pour vous. On a la fierté aujourd'hui de vous présenter notre tout nouveau balado intitulé « Commerce Élite », un podcast qui, à chaque mardi, va présenter des entretiens marketing tactiques avec des acteurs influents du commerce électronique. Dans ces épisodes, on s'assure également de vous mettre à jour sur les nouveautés qui ont impacté l'industrie dans les dernières semaines. Donc après hypercroissance pour les entrepreneurs et social selling pour les acheteurs médias, nous voilà maintenant avec Commerce Élite, un podcast 100% orienté pour les équipes marketing des entreprises qui vendent en ligne. Allez jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas à transférer le podcast à votre équipe interne. De retour à l'épisode en cours. Puis, il y a un point qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que vous avez commencé comme une boutique en ligne. Vous êtes resté un bon bout de temps comme une boutique en ligne, mais ultimement, dans le volet alimentaire, on s'entend, la croissance, les ventes, le développement va se faire dans des points de vente, chez des gros détaillants, des grosses épiceries. Et je serais curieux de voir un petit peu l'évolution à travers le temps. Donc, première question que je te poserais, combien de temps vous êtes resté uniquement en ligne? Et par la suite, j'aimerais savoir quel a été le déclic ou le moment que vous avez dit, là, tu sais quoi, on s'en va attaquer les points de vente.
Oui, très, très bonne question. En fait, au départ, lorsque ça s'appelait Maté Boutique, bon, c'était très, très artisanal. C'était pas un produit certifié biologique. C'était vraiment un peu un essai. Puis justement, on est resté en ligne probablement un bon 8 mois. Puis au moment où est-ce qu'on s'est dit, bon, mais ça serait cool de rentrer dans des premières épiceries, puis il y a du monde qui dit, ah, ben ça serait cool, tu sais, de voir vos produits dans tel magasin. Puis c'était principalement les épiceries santé au départ, là, il y a Avril, Rachel Berry de ce monde. Puis là, on s'est rendu compte, bon, si on veut faire ça, ben ça faut optimiser le produit. Faut que le produit soit certifié biologique. Pour cette clientèle-là, on n'a pas le choix. Donc, bon, faites beaucoup de recherches. On s'est rendu compte que si on voulait vraiment aller trouver un supply, si on veut un fournisseur de maté de meilleure qualité, il fallait retourner à la source. Donc, on est retourné en Argentine, vraiment passé un bon mois et demi là-bas, au nord de l'Argentine, dans la province de Misiones, où est-ce que le maté pousse en grande majorité. On a rencontré plein d'agriculteurs là-bas. Puis bon, à la fin de ce voyage-là, on a rencontré la famille avec qui on travaille encore aujourd'hui, qui font un maté qui est bio, séché à l'air, équitable, qui a vraiment tous les prérequis d'un produit qui va se vendre ici en Amérique du Nord. Donc, on a créé un partenariat avec ce fournisseur-là. Il nous a même fronté, si on veut, nos premières palettes de maté, les envoyer, puis on a pu commencer la business avec ça. Fait qu'à ce moment-là, on a fait un rebrand, on a vraiment repensé notre packaging, on a changé, si on veut, du maté boutique à Matéina, on a été chercher notre certification biologique, puis là, boom, on avait le produit qui était vraiment prêt pour le marché, qui était prêt pour les points de vente, prêt pour émettre un distributeur, puis c'est vraiment là qu'on a commencé à aller faire le développement via des épiceries santé, des cafés, vraiment tous les plus petits comptes. Puis on a travaillé pendant une bonne année et demie, 2 ans, vraiment exclusivement là-dessus. Puis bon, quelques mois plus tard, quand le prêt à boire a vu le jour, là, c'est sûr qu'on s'est dit, bon, c'est un produit qui est encore plus grand public. C'est un produit qui a sa place dans les IGA, Metro, Provigo, Maxi de ce monde. Donc, on a fait des démarches pour rentrer dans ces magasins-là. C'est là qu'on est aujourd'hui, un peu partout à travers le Canada. Puis c'est là qu'on met notre gros focus parce que clairement, comme tu l'as dit, quand on est rendu avec au-delà de 10 employés, qu'on a un entrepôt de 5000 pieds carrés, bon, les factures arrivent vite à la fin de chaque mois. Puis c'est certain que c'est ces grosses bannières-là qui sont des vaches à lait, si on veut, constantes, qui vont, tu sais, c'est des ventes faciles, si on veut, c'est des grosses commandes, des grosses quantités qui sortent, des gros chèques qui reviennent. Donc, c'est vraiment ces clients-là qui t'amènent une stabilité plus que, bon, les ventes en ligne qui peuvent être up and down. Tu sais, on l'a clairement vu avec la COVID, tu sais, ça a eu une énorme croissance, mais bon, pour certaines compagnies, ça a été assez éphémère. Donc, c'est vraiment là que notre focus.
C'est une belle vitrine. C'est une belle vitrine qui vous aide, j'imagine, pour votre marketing, pour vous faire connaître. Ça doit même peut-être avoir une incidence sur vos points de vente.
À 100%. Tu parles du commerce en ligne, bien sûr.
Bien sûr.
Oui, tout à fait. Puis c'est notre commerce en ligne, on n'a jamais arrêté de l'optimiser. En fait, comme on dit au départ, ça a été notre premier canal. Puis on a toujours cherché à l'améliorer, si on veut, puis à augmenter les ventes sur ce canal-là. Puis ça a été le cas. Quand la pandémie est arrivée, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient peut-être pas nécessairement investi dans leur infrastructure de e-commerce. Nous, on était déjà prêts. C'est là qu'on était le plus fort, justement. Fait qu'on était bien prêts à accueillir cette pandémie-là. Puis encore aujourd'hui, on voit une augmentation là, qui est constante sur nos ventes en ligne. Non seulement c'est une belle vitrine, ça nous permet d'être super présents sur le web, puis ça nous permet de parler à nos consommateurs vraiment d'une autre manière qu'en épicerie, en grande bannière. On a beaucoup plus de proximité. On est capable de vraiment bien engager avec notre clientèle, leur leur raconter un peu qu'est-ce qui se passe au day-to-day chez Matina, leur raconter bon comment Matina vu le jour, aussi des nouveaux produits si on veut, on peut faire des tests. Donc on a vraiment une belle audience en ligne, puis c'est ça, comme je disais, c'est pas le même genre de relation qu'avec les grandes bannières où les gens vont vraiment nous découvrir pour la première fois.
Puis ça a été quoi l'impact au niveau de vos ventes? Donc je serais curieux de voir un peu, si on parle en termes de pourcentage, quel est l'impact aujourd'hui des ventes hors ligne comparativement aux ventes en ligne? Et comment vois-tu le futur un petit peu avec cette ligne d'affaires-là qui est vraiment les points de vente et le volet avec vos différents détaillants?
Oui, tout à fait. Premièrement, je tiens à rajouter quelque chose sur notre commerce en ligne qu'on a mis sur pied il y a environ un an et demi, deux ans, qui est l'abonnement récurrent. Si on veut, Matina, c'est un produit fonctionnel. On n'est pas une marque de thé glacé qu'on voit pour se rafraîchir. C'est un produit, qui est fonctionnel, qui est caféiné. On a beaucoup de gens qui nous disent, moi, j'ai remplacé complètement mon café par ça, ou je remplace mon deuxième café, si on veut, avec un Matina. Donc, c'est un produit qui se consomme bien tous les jours. Donc, pour le client qui en consomme à tous les jours, qui en veut dans son frigo quand il travaille, le canal en ligne va toujours être le plus économique. C'est vraiment là que tu peux, acheter tes canettes pour le moins cher possible. Puis, c'est vraiment la méthode la plus simple. On va se dire aller à chaque jour ou à chaque deux jours au IGA s'acheter une canette. C'est pas le plus pratique. Donc, vraiment, ça va toujours être un canal, je pense, qui est super pertinent. Actuellement, ça représente 30% de nos ventes, notre e-commerce versus un 70 en distribution. Puis, je te dirais que notre objectif, c'est vraiment de maintenir ce ratio-là tout en augmentant. Donc, c'est sûr que ça va amener des défis. Là, on s'enligne vers au-delà de 2 millions de chiffres d'affaires cette année. Faut que les commandes en ligne augmentent aussi, là, si on veut garder ce ratio-là. Mais c'est vraiment, comme je disais, c'est un canal qu'on veut pas délaisser parce qu'on a vraiment le moyen de créer une proximité inatteignable, si on veut, en distribution traditionnelle.
C'est tout à votre honneur d'avoir vraiment cette empreinte aux deux endroits-là, autant en ligne qu'en ligne, parce que je pense que c'est une bonne manière d'envisager le futur. On a été capable de le voir pendant la COVID. Certaines personnes pensaient que ça allait se passer uniquement en ligne pour les 10 prochaines années. Comme de fait, on est ressorti de la COVID et on voit que les ventes en ligne, globalement, descendent considérablement. On l'a vu, les états financiers des grandes entreprises technologiques sont sorties, Shopify, les ventes sont beaucoup plus à la baisse globalement. Donc, on se rend compte qu'il y a clairement une hybride qui va s'installer dans notre quotidien pour les prochaines années. Et si on est capable d'être bien imprégné aux deux endroits, ça va nous donner un avantage compétitif.
À 100%. Puis c'est ça, je pense que la COVID a donné un bon coup de main aux commerçants en ligne, qui est positif dans certains cas, négatif dans d'autres. Mais non, définitivement. Dans notre cas, je trouve que c'est assez spécial parce que c'est ça, Matina, sans le commerce en ligne, n'aurait pas vu le jour. Au départ, au jour 1, l'idée, comme je te disais plus tôt, c'était pas on va se lancer dans une compagnie de maté, on va faire des breuvages, on va lancer un e-commerce, on va vendre des trucs en ligne, ça a l'air facile, ça a l'air le fun. Puis c'était vraiment ça l'idée.
C'est beau de voir l'évolution que la vision a été capable d'avoir. Puis parlant d'évolution, maintenant, je serais curieux de t'entendre ici, Nicolas. D'ailleurs, tu reviens, on enregistre le podcast 5 août 2022. Tu me disais, tu es allé faire un petit voyage dans la ville de Québec, rencontrer certains de vos clients qui distribuent vos produits. Qu'en est-il de cette distribution-là au niveau géographique présentement? Est-ce que vos produits sont uniquement distribués au Québec? Est-ce que vous avez une empreinte dans des provinces distinctes au Canada? Est-ce que vous voyez peut-être même ultimement une expansion aux États-Unis? Je serais curieux de t'entendre là-dessus.
En fait, la distribution, comment elle est faite? Définitivement, on est au Québec principalement. C'est ici qu'on met la grosse majorité de nos énergies. Il y a deux ans, en fait, on a essayé peut-être trop rapidement d'aller en Colombie-Britannique. On a fait un gros... on a mis beaucoup d'énergie là-bas. On a dépensé beaucoup d'argent pendant quelques mois. Puis on s'est rendu compte, oh, OK, on va peut-être rétracter un peu. Il y a encore tellement de travail à faire au Québec. À place d'essayer d'être vraiment partout super rapidement, on va concentrer nos efforts ici. Parce que c'est vrai qu'au Québec, c'est ici qu'on est, on vient d'ici, c'est ici qu'on est le plus fort. Par contre, il y a encore énormément de travail à faire, énormément de gens qui ne savent pas encore c'est quoi le maté, qui connaissent pas le maté non plus. Donc, c'est ce qu'on met la majorité de nos efforts en distribution directe, si on veut, avec des représentants qui parcourent, si on veut, des centaines de comptes à chaque semaine, puis à qui on facture directement. Il y a aussi la facturation, ben la distribution en compte majeur, donc vraiment les IGA, Metro, Provigo de ce monde. Et bon, il y en aura d'autres qui vont venir. Il y a ces points de vente-là sur lesquels aussi on travaille très fort au Québec. Et pour tout ce qui est l'extérieur du Canada, on n'a pas arrêté, si on veut, le développement de ce côté-là, mais on utilise le service du fameux courtier. Il y a un métier, en fait, c'est créé qui est courtier alimentaire, qui vraiment va s'occuper du développement, il va s'occuper d'aller chercher des nouveaux listings dans des comptes majeurs, donc des épiceries. Puis c'est fou, juste cette année, c'est l'année qu'on a mis la moins d'énergie, si on veut, à l'extérieur du Québec, précisément en Colombie-Britannique. On n'a pas investi, si on veut, là-bas. Par contre, avec le courtier, c'est là qu'on a été chercher le plus de traction, si on veut, puis on voit vraiment une belle augmentation, précisément là, dans la région de Vancouver. On a déniché, si on veut, un listing dans une très, très grosse chaîne d'épicerie. On a eu de la chance au début de l'été chez Save on Food. Donc, c'est 160 magasins en claquant des doigts.
Oh, wow!
Où est-ce qu'on est disponible un peu partout en Colombie-Britannique et en Alberta. Donc, vraiment, pour tout le reste du Canada, oui, on fait des petits trips par là-bas de temps en temps, aller jeter un coup d'œil, que tout se passe bien, que le courtier, bon, fait bien son travail. Mais sinon, nos énergies sont vraiment focussées au Québec en ce moment. Puis, je te dirais qu'en ce moment, notre gros, gros, gros défi, puis sur lequel on met de l'énergie, puis la raison pourquoi j'étais à Québec plutôt cette semaine, c'est que les fameux IGA Métro du Québec, je m'attendais pas à ça du tout. On pensait que ça allait être beaucoup plus facile. Par contre, d'aller garder une distribution constante, que les produits restent en tablette dans ces magasins-là, c'est excessivement difficile. Quand tu es un petit joueur,
ah ouais, hein?
Quand tu es un petit joueur, tout peut t'arriver. Tu peux avoir un gros qui arrive puis qui te passe complètement. Ton produit tombe en rupture de stock et t'es dans une épicerie, si on veut, où est-ce qu'il y a... qui a 120 000 autres produits, le gérant, il va t'oublier, il va enlever tes étiquettes des tablettes, puis tu vas revenir, même si tout était beau, lorsque tu passes, exemple, un mois, tu peux revenir un mois plus tard, puis tes produits sont plus ces tablettes, t'as plus tes étiquettes, puis t'es plus là, c'est ça, tu t'es fait tasser, quelqu'un qui t'a oublié. Donc, c'est excessivement difficile, il y a tellement d'énergie à mettre. Puis je trouve ça vraiment, des fois c'est frustrant de se dire, puis tu, on voit bon les ces bannières-là qui disent oh combien on met de l'importance sur les produits locaux, on priorise les produits d'ici, mais que finalement tu arrives là-bas puis non c'est le Gatorade, tu prends ta place puis tu on s'en fout là, tu vends 4
cases. C'est pas facile le retail.
C'est vraiment pas facile. Donc on a quelqu'un à temps plein qui fait ça, qui fait le développement. Moi, je mets ma main à la pâte. Puis c'est vraiment notre gros challenge, si on veut, en ce moment, d'aller chercher de la maturité, d'aller voir chaque gérant de ces épiceries-là tellement souvent qu'ils vont dire hey, « je t'ai cœuré des voir Matéina, là. Je vais m'assurer que leurs produits restent ces tablettes puis les recommander quand ils sont en rupture de stock. » Parce que c'est ça, c'est frustrant. Là. De se déplacer à l'autre bout pour aller, si on veut, arranger le problème, puis que finalement, ça se reproduit. C'est un gros challenge. Puis pour finir, si on veut, de répondre à ta question au complet, où est-ce qu'on se voit, tu sais, à moyen, long terme, c'est certain que notre but, Matéina, c'est d'être hyper fort au Canada en entier. Fait qu'être, si on veut, le leader national dans yerba maté. Puis là, si on aura atteint ça, on va se poser la question, bon, c'est quoi le prochain pays qu'on attaque? Souvent, je trouve que les brands ont le réflexe de dire, on va traverser aux États-Unis. Je me suis fait dire extrêmement souvent que, bon, ça prend des reins excessivement solides pour rentrer dans ce marché-là.
Bien sûr.
C'est certain qu'à un moment, ça peut se faire. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui pensent pas à l'Europe. C'est super intéressant. Dans le monde du matin en Europe, c'est très intéressant. Même certains pays d'Amérique centrale que moi je trouve super intéressant aussi, le Costa Rica par exemple, qui est un pays qui se développe de plus en plus, où est-ce que les gens ont des goûts développés, qui ont un pouvoir d'achat plus important. Moi c'est ça, quand on va être rendu à ce moment-là à exporter hors du Canada, peut-être que ce soit les États-Unis, peut-être que ce sera quelque part d'autre, mais on verra en temps et lieu.
Une étape à la fois. Et tu disais dans un entretien, j'ai trouvé ça assez intéressant, que si demain matin on te donnait $1 million, tu voudrais nettoyer les océans. Puis je t'écoutais également parler dans d'autres entretiens que tu as pu donner, puis tu as l'air d'avoir clairement une vision très poussée, très spécifique sur le volet environnemental. Je serais curieux de voir comment tu es capable ultimement d'intégrer le tout à ton entreprise pour autant faire des impacts, faire des actions dans ton quotidien pour le développement commercial de ta marque, mais également pour voir si tu es capable d'avoir un impact un petit peu plus fort au niveau social et environnemental.
C'est certain que au jour 1, je pense, au tout début de Martina, c'est un rêve si on veut d'avoir une entreprise qui fait plus que juste vendre des produits. Moi, je trouve ça tellement important, puis d'avoir un impact justement positif social. Je pense que ça va devenir, on n'est pas encore rendu là, mais ça va devenir quelque chose de plus en plus important pour les entreprises. Par contre, à l'étape où est-ce qu'on est rendu, bon, ben, les institutions financières, les fonds d'investissement ne te récompensent pas pour ça. Il y a pas personne qui te récompense ou qui te donne un plus quand tu fais ça. Malheureusement, on est dans un monde très, très capitaliste encore. Mais c'est certain, puis on a déjà commencé, c'est certain que c'est quelque chose qu'on veut faire. Nettoyer les océans, ça peut paraître assez assez audacieux comme défi, mais déjà de s'associer avec des instituts, avec des joueurs, si on veut, qui ont comme mission d'apporter un impact positif environnemental, c'est déjà quelque chose qu'on a commencé à faire, puis qu'on veut poursuivre à faire dans le futur. Ça faisait 2 ans là, en fait, qu'on était associé à Protect Our Winters Canada, qui est une non-profit qui met des pressions, si on veut, sur le gouvernement canadien pour si on veut avoir une gestion plus responsable de l'environnement. Bref, il y a plein de pressions. Nous, en fait, on a trouvé le moyen de contribuer, si on veut, en créant, si on veut, une awareness. Bref, on a partagé un peu
la visibilité,
si on veut, à Protect Our Winters. Donc, on a fait une saveur exclusive avec, si on veut, leur logo, leur mission à l'arrière de la canette. Puis bon, il y a des dons qui ont été faits avec les ventes de cette canette-là. Le plus possible qu'on va être capable de le faire. La réalité, par contre, puis pour l'avoir vécu, c'est que une petite entreprise qui est en démarrage doit quand même être assez prudente là-dedans. Parce que, comme je te disais, les entreprises sont pas récompensées pour ça. Puis bon, comme tout le monde le sait, une startup veut dire, bon, on manque toujours d'argent, on doit faire extrêmement attention à comment on dépense notre argent. Donc, c'est sûr que c'est pas, malheureusement, ça maximise pas le ROI, on n'est pas récompensé. Donc, de la manière que je vois ça, ben c'est certain, on va aller chercher plus de croissance, on va aller chercher des beaux chiffres, puis on va continuer à aller de l'avant avec nos projets philanthropiques lorsque notre compte de banque va nous le permettre, puis qu'on va peut-être avoir un peu de lousse, si on veut.
Intéressant. Je terminerai en te posant des questions un petit peu plus personnelles. J'aime toujours savoir si mes invités lisent un peu. Est-ce que tu lis certains livres d'affaires,
Nicolas? Tout à fait. Je suis un gars autant de livres papier que d'audiobook. Mais il n'y a pas un soir que je m'endors sans écouter un audiobook. Donc, non, vraiment, je ne sais pas si tu voulais parler d'un livre en particulier.
Ben oui, si tu as des recommandations pour notre audience, ça serait fantastique.
Ben, il y a plusieurs livres, en fait, je te dirais qu'ils ont quand même eu un gros impact dans mon cas, au tout départ de Mateina, puis que je recommande à n'importe quel entrepreneur qui va vraiment aider à identifier c'est quoi les valeurs de son entreprise. C'est le livre « Your One Word » par Evan Carmichael, qui est un gars de Toronto, qui a un channel YouTube en passant qui est incroyable, vraiment un bon motivateur. Moi, c'est vraiment ce livre-là qui m'a permis de comprendre, OK, c'est quoi mon... En fait, Your One Word, il te permet de trouver c'est quoi ton seul mot, si on veut, qui représente ta personne, qui représente tes valeurs. Puis, ben moi, c'est ça. Ça m'a vraiment aidé à me positionner moi-même et Mateina dans nos tout débuts. Donc, vraiment, un super bel impact de ce côté-là. Sinon, il y a un autre livre que je lis en ce moment que j'aurais aimé ça avoir lu plus tôt, mais c'est Start with the End, avec le nom de l'auteur que m'échappe, en fait. Mais Start with the End, vous seriez à mesure de le trouver, c'est vraiment ça le dit carrément, comme avant de lancer ton entreprise, c'est important de déterminer où est-ce que tu veux être à la fin. C'est quoi que tu veux, en fait, la finalité de ça. Puis c'est définitif que si, en fait, qu'on va l'appliquer pour Matina, puis le jour où est-ce qu'on va lancer une autre entreprise, je vais commencer avec la fin parce que ça va déterminer comment tu vas faire les choses au tout début, là. Puis sinon, définitivement, le livre qui est très, très bien connu, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que je pense qui est très populaire au tout le monde, plus au niveau psychologique. Mais c'est sûr que je pense que ça va faire 3 fois que je lis ce livre-là. C'est tous des conseils, je pense, qu'on a besoin de se rappeler de temps en temps.
Intéressant. Ben, fantastique. Content d'en apprendre un peu plus là-dessus. T'as parlé d'audiobook, podcast. Est-ce que t'en écoutes un peu?
Un peu moins, je te dirais. C'est certain que je suis, bon, encore une fois, un peu comme beaucoup de gens, fan des Joe Rogan Experience. Vraiment entendre parler de tous les sujets différents qui sont discutés à ce podcast-là. Mais sinon, vraiment, côté business, un nouveau podcast que j'écoute il n'y a pas longtemps, c'est My First Million. Encore là, je me souviens pas exactement du nom des gens qui le font, mais vraiment cool, puis des super bons invités, puis vraiment ça te permet d'apprendre des choses, ça te permet de comprendre, si on veut, le big picture en business, parce que moi, comme je disais au tout départ, je suis pas quelqu'un depuis que j'ai 16 ans, j'ai entrepreneur tatoué sur le chest. C'est venu à moi il y a quelques années avec le projet, là. Donc, c'est sûr que j'en apprends au day to day, puis depuis les 4 dernières années, on apprend énormément de choses, puis c'est toujours cool d'en apprendre un peu plus sur le milieu.
Intéressant. Et dernière question, as-tu une routine avant, pendant et après le travail spécifique qui se répète?
Je te dirais que je suis pas un gars de routine matinale, en fait. Là. Moi, le matin, c'est pas compliqué. C'est verre d'eau, gourde de maté, puis direct dans les courriels ou jump direct dans le travail. Je pense que la routine matinale, la réalité, c'est que c'est différent pour tout le monde. Il n'y a pas une personne pour qui c'est pareil. C'est plus la routine de fin de journée. Je suis quelqu'un qui va être actif vraiment à la fin de journée de travail. Je suis un gars qui va faire du CrossFit à 8 heures le soir, de 8 à 9 heures. qui se couche quand même assez tard aussi. Mais c'est vraiment en revenant du workout que c'est ça. Je tombe dans la zone tranquillité, puis un peu de lecture, puis c'est ça, il n'y a pas grand-chose que je fais de particulier à part ça.
Mais s'entraîner le soir, c'est quand même assez exceptionnel parce que moi, je sais pas pour toi, mais après m'avoir entraîné le soir, des fois, c'est très difficile de pouvoir dormir. Je préfère le faire le matin, mais je trouve ça intéressant d'entendre que toi, c'est ça, c'est le contraire. C'est en fin de journée que tu vas le faire.
Ouais, non, c'est ça. Comme je te dis, moi, à 9h, je vais arriver chez moi, bon, puis je vais faire des trucs jusqu'à minuit, mais à minuit, absolument pas de difficulté à m'endormir. Là, je vais justement, au contraire, très, très bien dormir. Puis en fait, je peux boire un matéina à 8h avant le workout, puis il n'y aura pas de problème. Donc, en autant que je donne tout ce que j'ai puis que je me brûle comme il faut. Il faut que ça soit un bon workout pour dépenser toute cette énergie-là. Mais tu sais, de commencer, je pense surtout dans la dernière année, on vit tellement des gros défis des fois, puis c'est tellement des journées souvent stressantes que d'aller pendant une heure de temps se défouler puis avec la grosse musique puis de suer à fond puis de forcer, c'est vraiment, ça permet de laisser aller, si on veut, dégager toutes les petites frustrations qui ont pu être accumulées pendant la journée, puis bon, après ça, on va dormir puis on recommence le lendemain.
Fantastique. Bien, Nicolas, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Si on veut en apprendre plus sur Matina, votre site web, vos médias sociaux, est-ce qu'il y a un autre endroit spécifique qui pourrait être intéressant pour notre audience afin d'aller goûter vos merveilleux produits, je le répète?
En fait, définitivement, pour goûter nos produits, c'est ça, les gens peuvent trouver sur matina.ca, M-A-T-E-I-N-A.ca. Facilement commandable, livraison rapide. Sinon, ben, nos produits, si on veut, pour le goûter en plus petite quantité, comme je disais un peu plus tôt, on est supposé être présent dans les IGA et les métro. Puis sinon, ben, si vous voulez vraiment en apprendre plus sur le yerba maté, sur Matina, qu'est-ce qu'on fait, l'histoire un peu en arrière de l'entreprise, Instagram est définitivement le le canal où est-ce qu'on partage le plus d'informations là-dessus. On est très actifs sur notre Instagram qui est Yerba Mateína, facilement trouvable. Donc, c'est vraiment là que les gens peuvent savoir qu'est-ce qui se passe avec nous.
Fantastique. Bon, on mettra un lien dans les notes de l'épisode. Nicolas, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Très apprécié d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire derrière vos fabuleux produits. Donc, je te remercie beaucoup.
Et merci à toi.
Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.